Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, ne plus joindre les deux bouts. Eh oui, on parle de tunnel. Isabelle Pasquier, en Suisse, l'association Initiative des Alpes, dont vous êtes la représentante en Suisse romande, s'est constituée sur une affaire de tunnel.
Oui, on peut dire les choses comme ça. En effet, dans un premier temps, le Gothard, ça a toujours été un des principaux axes de transit à travers la Suisse. C'est aussi une région mythique parce que c'est vrai que c'est autour de l'axe du Gothard, c'est ces cantons-là qui ont été les premiers cantons fondateurs de la Suisse. Donc c'est vrai un endroit qui est une symbolique très importante en Suisse. Et la Suisse moderne, c'est aussi, on dit, constituée beaucoup autour de la construction du tunnel ferroviaire en 1880, qui a créé les premières banques, qui a nationalisé les... Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de mouvements qui ont été autour du Gothard et du développement du Gothard. Et donc en 1880, le premier tunnel ferroviaire a été construit, qui a permis déjà d'augmenter, évidemment, d'améliorer la desserte, de faciliter le transfert.
C'est un axe nord-sud.
C'est un axe nord-sud, exactement. Et puis après, il y avait la route du col qui existait bien sûr déjà. Et en 1980, il y a un premier tunnel routier qui a été ouvert et qui a été inauguré. Et à ce moment-là, le conseiller fédéral, qui est donc un ministre chez nous, avait promis que cet axe, ce nouveau tunnel, ne serait jamais un corridor pour les camions, mais serait uniquement pour faciliter en fait le transfert entre le nord et le sud, entre les cantons d'Uri et de Suisse centrale, les cantons alémaniques, et le sud de la Suisse qui est italophone. Donc c'était vraiment comme ça que ça avait été présenté.
Mais comment est-ce que c'était possible ça? Il s'agissait d'interdire la circulation en camion?
Non, c'est qu'il, visiblement, il y avait un manque de vision, qu'il n'avait pas du tout, il s'était pas du tout rendu compte que ça allait tout à coup, comme ça, ouvrir les vannes du trafic, parce qu'à l'époque, tout le trafic en Suisse de marchandises se faisait par le rail. Donc, ils avaient imaginé que ça allait perdurer. Ils s'étaient pas du tout rendu compte qu'il y aurait ce transfert du rail à la route. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé, en fait, très vite avec d'énormes flux de camions. Et ces petites vallées alpines, elles ont commencé à étouffer sous ces flux et à se rendre compte qu'il fallait faire quelque chose si elle ne voulait pas laisser la situation empirer. Alors c'est effectivement une association d'individus qui se sont mis en place, et c'est ce droit d'initiative qu'on a en Suisse qui permet en fait à une association, à partir du moment où elle récolte 100 000 signatures, d'inscrire un article dans la Constitution. Bien sûr, il faut donc les 100 000 signatures, et après, ça permet de passer en vote. Et en 1992, la population suisse, un petit peu quand même à la surprise générale, a validé cet article constitutionnel dit de la protection des Alpes, qui demande essentiellement trois choses. D'abord, il dit qu'il faut protéger les régions alpines contre le trafic de transit. Deuxièmement, que ce trafic de transit doit se faire sur le rail et non plus sur la route, donc il prévoit déjà des solutions. Et la troisième chose qu'il spécifie, c'est qu'on n'a plus le droit d'augmenter les routes de transit dans la région alpine. Donc c'était quand même assez visionnaire, ça a permis de développer une politique favorable au rail.
C'est donc l'époque où s'est développé le ferroutage en Suisse, qui était vraiment très spectaculaire, en tout cas comparé à la France.
Oui, mais ça a permis surtout de garder des parts, puisque justement, jusqu'en 1980, tout se faisait par le rail. Donc, ça a permis de regagner des parts de rail. Et c'est vrai que depuis cette année, on a réussi à avoir une croissance du rail. Et on a effectivement actuellement 68% des marchandises qui traversent les Alpes suisses par le rail, alors qu'en France, sauf erreur, c'est 15%. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu toute une politique qui a été développée pour favoriser le rail. Cette politique, elle a plusieurs piliers. Il y a d'abord la question de l'écotaxe, qu'on appelle la RPLP, la redevance poids lourd. Cette écotaxe que vous n'avez jamais réussi à adopter en France, nous, en Suisse, on l'a déjà depuis 2001. Elle est calculée, c'est 2 à 3 centimes, qui sont calculés en fonction des kilomètres parcourus, du poids du camion, et puis de la norme, si c'est un camion de norme Euro 2, 3, qui sont donc plus polluants qu'un camion de norme Euro 6, il sera davantage taxé. On est à peu près à 300 francs pour un ordre de grandeur pour traverser la Suisse pour un camion. Donc cette taxe-là, elle vise à couvrir les frais qui ne sont autrement pas couverts, puisqu'on n'a aussi pas de péage en Suisse, qui ne seraient pas couverts.
Donc les frais d'entretien du tunnel, de la route, de tout cet axe-là.
Oui, tout à fait, exactement. Et puis aussi de promotion du rail, parce qu'inversement, le rail est subventionné pour justement aussi rétablir un meilleur équilibre entre les coûts du rail et de la route. Donc le premier pilier de la politique suisse, c'est cette écotaxe. Le deuxième pilier, ça a été de fortement développer le rail. On a aussi voté au début des années 90 en Suisse, on a validé tout le développement du rail avec une partie qui s'appelle Rail 2000, qui est le trafic voyageurs, et tout un volet pour le trafic de marchandises avec ce qu'on appelle les NLFA, qui sont des nouvelles transversales alpines, ces deux axes ferroviaires pour lesquels on a investi quand même plus de 20 milliards, hein, qui permettent, il y a un premier axe qui s'appelle le Lötschberg, qui passe au niveau du canton de Berne et du Valais, qui a été inauguré déjà en 1997, et puis la grande transversale alpine du Gotthard, hein, qui est celle dont on parle maintenant. Ça va être le plus long tunnel du monde, puisque c'est un tunnel de 57 km. Et le principe, vraiment, c'est qu'il n'y a plus de dénivelé, c'est-à-dire le tunnel a été construit à la base de la montagne, donc on évite toute cette pollution, cette usure, ces coûts liés à la montée, puisque à l'heure actuelle, les tunnels sont à plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc on a là, par ce biais-là, une grande amélioration pour le rail.
Ce que vous nous décrivez là, Isabelle Pasquier, c'est une politique vraiment très vertueuse et qui a porté ses fruits, j'imagine, ou qui les porte.
Alors je dirais en partie parce qu'on a réussi à maintenir une bonne part du trafic qui passe par le rail, puisqu'on a 68% du trafic de transit en Suisse de marchandises qui passe sur le rail. Ça, c'est le point positif. Après, il y a d'autres côtés. C'est-à-dire, par exemple, quand on a introduit l'écotaxe, ça a été en échange, finalement, c'est dans le cadre d'un accord bilatéral avec l'Union européenne. La monnaie d'échange, c'est que on a, nous, accepté les 40 tonnes, alors qu'à l'époque, on n'avait que les 28 tonnes et il y avait une forte opposition en Suisse à accepter les 40 tonnes. Donc, si vous voulez, on a pu effectivement diminuer le nombre de camions, mais finalement, on n'a pas diminué le nombre de marchandises globalement de tonnage, si on regarde les tonnages, on n'a pas diminué les tonnages qui traversent la Suisse par la route, puisque simplement on a amélioré le système, mais on a densifié finalement, les camions sont davantage chargés, c'est des plus gros camions.
Bah, il faut quand même préciser que dans le même temps, le trafic de marchandises a explosé dans toute l'Europe, donc c'est un peu logique également que vous n'ayez pas pu diminuer ce tonnage.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, on dit que dans les 30 dernières années, le trafic des marchandises au niveau des Alpes a quadruplé, et on va aussi encore des pronostics, l'OCDE annonce que aussi au niveau européen, le trafic de marchandises va énormément augmenter. Alors c'est pour ça que nous, notre souhait au niveau de l'initiative des Alpes, c'est vraiment que on fasse au niveau de la politique suisse un maximum pour soutenir et développer ce qui se fait encore par le rail. On va inaugurer cette année ces nouvelles transversales alpines. Donc c'est quelque chose qui devrait vraiment donner une impulsion forte pour augmenter la part du transfert par le rail. Et là, on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait cette volonté au niveau politique. On craint assez.
Vous avez de bonnes raisons, malheureusement, de le craindre.
Oui, on a de bonnes raisons de le craindre, parce que cette année, on a la population suisse, en février, a validé la construction d'un deuxième tunnel routier au Gotthard. Contre cette proposition de notre gouvernement, nous avions lancé un référendum qui avait abouti. C'est pour ça que le sujet a été tranché par le peuple. Mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause cette année, ce sujet-là. Je dirais que pour expliquer ça, on a eu une...
Peut-être avant d'expliquer ça, Isabelle Pasquier, rappelez que par deux fois déjà, ce second tunnel routier avait été proposé, soumis à vote, et par deux fois, la population suisse avait refusé. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus mystérieux de voir que cette année, en 2016, finalement... ça passe, et ça passe même plutôt largement.
Mmh. Oui, alors je pense que ce qu'on peut expliquer, si le peuple avait effectivement déjà deux fois refusé le deuxième tunnel, même le canton d'Uri, qui est le principal concerné, ils avaient voté cinq fois contre, alors que cette fois, ils ont eux aussi accepté. Donc il faut comprendre que le contexte est un tout petit peu différent. D'abord, on a une ministre des Transports et de l'Environnement, par ailleurs, qui s'est extrêmement engagée pour ce deuxième tunnel et qui a fait des promesses qu'elle ne pourra pas tenir. Sa promesse principale, ça a été de dire que le deuxième tunnel n'augmenterait pas les capacités. D'ailleurs, elle était obligée de le promettre puisqu'au niveau de la Constitution, vous avez vu, on ne peut pas augmenter les... Alors elle a dit, on va construire deux tunnels. Dans chacune des deux tunnels, on aura deux voies, donc on a bien quatre voies, mais on va utiliser qu'une voie par tunnel.
Alors, combien coûte ce nouveau tunnel?
Nous, on parle d'un surcoût de 3 milliards.
Ça veut dire que la Suisse est prête à dépenser 3 milliards pour ne pas utiliser les possibilités nouvelles.
C'est exactement la promesse qui a été faite par notre gouvernement, oui. C'est de dire, la Suisse peut se permettre la construction d'un deuxième tunnel, elle doit même le faire.
Pour rien.
Pour des questions de sécurité, ça a été vendu comme un tunnel qui améliorerait la sécurité en disant que ce n'était plus possible en 2016 d'avoir un trafic sur un tunnel de 17 km, d'avoir un monotube. C'est pourtant le cas à beaucoup d'autres endroits. Juste à côté de chez nous, le Mont Blanc, c'est la même situation. C'est aussi un tunnel dans lequel le trafic se croise. Et c'est un tunnel dans lequel il y a des manières d'éviter les accidents. Bien sûr, il y a eu des tragédies et au Gotthard, et au tunnel des Monts-Blancs, mais ça fait plus de 15 ans. Et depuis, par exemple, au Gotthard, on a pu grandement améliorer la sécurité parce qu'on a introduit un système de dosage des camions. Parce que c'est clair que le principal risque sur ces routes, c'est les camions. Et donc nous, on a toujours défendu pendant cette campagne de dire, mais si on veut améliorer la sécurité au Gotthard, c'est juste, il faut diminuer le flux des camions. C'est la manière, on le sait, on a introduit aussi un système de contrôle de sécurité des camions et on voit les camions sur la plupart du temps où un pourcentage élevé de camions est déficient, que ce soit au niveau des normes techniques, que ce soit au niveau des horaires. De plus en plus, les entreprises délocalisent, ça veut dire que c'est des camions qui viennent des pays de l'Est, avec des conditions de travail pour ces camionneurs et des états des camions qui est juste en deçà des normes. Donc c'est un vrai problème, ces camions, d'autant qu'on les fait monter à une altitude. Les camions à la base, c'est pas fait pour monter à plus de 1000 mètres sur une route de montagne. Les moteurs chauffent, donc c'est toute une série de risques. Donc nous, on a vraiment clamé de dire que si on veut améliorer la sécurité, c'est limiter les camions.
Jean-Christophe Van Vest, j'étais étonnée en préparant notre rencontre. J'ai découvert que l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc, ARSMB, dont vous êtes aujourd'hui le vice-président, s'est constituée en fait 2 ans avant le fameux accident du tunnel du Mont-Blanc, 99. Donc du coup, je me suis dit, finalement, cette association n'avait rien à voir avec l'accident du tunnel du Mont-Blanc. Et puis, on n'en entend plus parler, c'est que tout va bien. Donc, finalement, le tunnel, ça vous pose aucun problème?
Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Donc, cette association, elle a été créée pour mettre le doigt sur un grave problème dans la vallée qui est au pied du Mont-Blanc, qui est une des plus belles régions françaises, mais en même temps, qui est une des vallées les plus polluées. La vallée de Chamonix jusqu'à Cluses. Pour vous donner des chiffres simples, en termes de jours de mauvaise qualité de l'air, il y en a 2 fois plus qu'à Paris. Donc à Paris, c'est 93 par an en 2014. Et ici, c'est 188 jours de mauvaise qualité de l'air. Et c'est un problème tellement préoccupant que dans le fond de la vallée, là, juste en dessous de nous, à Sallanches, Le Fayet, Saint-Gervais, les enfants sont obligés de rester confinés dans les écoles plus de 30 jours par an à cause des alertes de pollution. Donc le matin, le préfet envoie un fax dans les écoles et ils n'ont pas le droit de sortir, faire des activités extérieures parce que l'air est tellement mauvais que c'est nocif pour leur santé. Donc il y a un gros problème et qui est lié en partie à la présence de ce tunnel.
C'est très rassurant en tout cas quant aux mesures de protection qui sont prises pour tous les sites dits fragiles, puisque je lisais également que 90% du territoire de cette vallée fait l'objet de protections diverses. Il y a 2 sites classés, 3 réserves naturelles, 13 NIEF, un parc naturel, enfin c'est une réserve naturelle. Bref, 90% du territoire de cette vallée dont vous me parlez.
Tout à fait. Donc il y a tous ces endroits qui sont protégés. Et puis c'est aussi un site classé par l'UNESCO, hein, le Mont-Blanc. Mais ça n'empêche pas qu'il y a ce gros problème de pollution. Et si on regarde, vous voyez par la fenêtre là, le sommet du Mont-Blanc, si on descend juste au pied, il y a un incinérateur et une énorme usine de carbone. Donc l'usine de carbone, elle produit des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et l'incinérateur, on brûle juste nos déchets. Il est dimensionné pour 2 fois la quantité de déchets qu'on produit dans la vallée. Donc les déchets des autres régions, de Lyon ou de Rhône-Alpes, viennent ici pour être brûlés. Donc ils polluent pendant la route avec les camions et ils sont brûlés ici dans cette région. C'est donc une double pollution.
Bon, mais parlons des choses positives. Depuis l'accident qui a été terrible et qui a laissé des traces dans toutes les mémoires, on avait interdit la circulation des camions. Et bon, allez, je vais pas faire semblant. En fait, je suis venue par le tunnel du Mont-Blanc, il y a des camions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, la circulation avait été complètement interdite. Ensuite, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelait l'alternat. Donc, c'était un sens à la fois. Et puis, au bout de 2 ans, le flux de camions est redevenu quasiment normal. Aujourd'hui, on a à peu près 575 000 camions par an qui passent sous le tunnel du Mont-Blanc. Donc, ça vous donne une idée, c'est plus de 1 000 camions par jour, hein, un petit 2 000 en moyenne, parce que la circulation est interdite le dimanche. Et à peu près 600 000 qui passent par le tunnel du Fréjus. Donc on a 1 million de camions qui passent par ici. Et on a en même temps, pas loin dans la vallée derrière, hein, il y a l'autoroute ferroviaire qui a été mise en place, qui permet de traverser les Alpes aussi, et qui transporte à peu près 30 000 camions par an. Mais elle a une capacité de transport de 300 000. On peut très facilement monter jusqu'à 300 000, mais il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics d'augmenter le ferroutage, alors qu'il y a une réelle demande des transporteurs. C'est pour eux l'avantage. Pour le transporteur, c'est du temps de pause. Le chauffeur, il conduit pas, il se repose, donc il fait son heure de pause tout en avançant. Donc c'est super pratique pour le routier et ça évite toute cette pollution. Et les coûts sont assez élevés des autoroutes et des tunnels. Donc c'est en termes de coûts, c'est quasiment neutre, voire presque moins cher pour un transporteur de passer par l'autoroute ferroviaire. Mais seulement, il n'y a pas assez de débit. Quand on voit le manque de volonté, ça va même jusqu'au niveau européen. La CE vient de voter un doublement des normes de pollution pour les véhicules diesel. Donc ce doublement, c'est un très mauvais signal qui est envoyé par la communauté européenne.
Jean-Christophe Van Ves, d'après vous, quelle est la logique, est-ce qu'il y en a une, qui se cache derrière cette politique étrange? Vous avez dit qu'elle était européenne, elle est également française et italienne. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on laisse les camions circuler sous le tunnel du Mont-Blanc alors qu'on avait promis qu'on ne le ferait plus, on remet de la circulation alors qu'on avait promis qu'il n'y en aurait plus, on demande simplement aux voitures de respecter une distance de 150 mètres entre deux voitures, mais comme vous pouvez pas mettre un seul policier sous le tunnel parce qu'il mourrait dans les fumées, de toute façon, je confirme que ça n'est pas respecté. Qu'est-ce que c'est la logique ?
La logique, elle est pas très compliquée, en fait. Le principal actionnaire du tunnel du Mont-Blanc et de l'autoroute qui mène ce tunnel, c'est l'État français et c'est une grosse source de revenus. Donc on sacrifie la santé des gens pour gagner un peu d'argent. C'est exactement ça la logique. Et dans le tunnel du Fréjus, c'est pareil. En termes de prix, ils sont à peu près au même prix pour éviter qu'il y ait une concurrence entre les deux. Donc on les met au même prix.
44 euros simplement pour traverser le Mont-Blanc.
Pour une voiture. Mais pour un camion, c'est plus de 300 euros. Donc on veut des camions parce que en termes de trafic, c'est pas le plus important. Mais en termes de recettes financières, c'est le camion qui rapporte le plus.
Thibaut Dufay, vous êtes naturaliste, vous êtes accompagnateur en montagne. Et j'aimerais que vous me parliez de cet endroit assez magnifique où on se trouve là, aujourd'hui, la vallée de la Roya. Une petite vallée qui monte un peu après Nice, qui monte... D'abord par l'Italie, puis qui rejoint la France à nouveau, et puis de nouveau l'Italie. Enfin, on est aux confins du territoire. C'est étroit, très beau.
Oui, la Roya, c'est... On est à l'extrême sud-est de la France, à la fin des Alpes. On a des sommets qui avoisinent les 3000, et à 30 km, 40 km à vol d'oiseau, on est au bord de la mer. On est... encerclé par l'Italie, on est à la fois dans un carrefour climatique, carrefour culturel. On a du coup la chance d'avoir une richesse naturelle, une richesse historique, énormément de choses à découvrir par ici.
C'est une vallée qui est habitée depuis longtemps ?
C'est une vallée qui est habitée depuis très longtemps. Les plus anciens signes d'occupation sont dans la vallée des Merveilles. Des vestiges qui datent d'il y a plus de 5000 ans. Et c'est les premières traces d'occupation à plus de 2000 mètres dans les Alpes. Ça a toujours été un grand lieu de passage, cet axe qui traverse la Roya, de tous les temps. C'était plutôt sur les hauteurs auparavant. Mais...
C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'en même temps, quand on y est, on a l'impression d'être complètement à l'abri du monde, loin de tout.
Ben, du fait d'être encerclé par les montagnes, on est un petit peu coupé et en même temps, on est un petit peu à la fois en France et en Italie. C'est une situation très particulière qui apporte plein de choses au niveau du mode de vie. Dans la vallée de la Roya, on a une qualité de vie assez extraordinaire par ce climat très agréable, par la riche vie culturelle, plein d'associations qui s'activent énormément, plein de concerts, plein de spectacles, beaucoup de fêtes dans les villages où les gens ont l'occasion de se rencontrer. Et de plus en plus d'échanges avec les vallées voisines, ce qui risque d'un petit peu se refermer finalement en créant un axe rapide pour la traversée. En même temps, on voit de plus en plus de camions qui traversent à fond la caisse dans les villages de la vallée. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 2 semaines sur des échafaudages à Fontan, qui est vraiment un village bâti autour de la route. Et de voir plusieurs fois des poids lourds doublés devant la boulangerie en face de l'école, en plein cœur du village, avec une visibilité très réduite. On imagine un gamin ou une personne âgée qui traverse juste derrière, il aurait l'impossibilité de l'éviter. J'ai eu l'occasion aussi l'année dernière de traverser une vallée qui était à peu près similaire dans les Apennins, où le chantier, c'est un chantier de voies rapides, les voies limitées à 110 là, qui traverse toute la vallée. Donc au fur et à mesure qu'on monte, on a déjà la route qui est construite. La majorité des maisons sont abandonnées, on voit que des volets fermés, il se passe rien, on voit personne dans les villages. Au fur et à mesure, on remonte, on arrive sur le chantier. Là, il y a déjà quasiment plus rien. Puis on monte à nouveau sur une petite route. On commence petit à petit à re-rencontrer un petit peu de vie, de volets ouverts, de personnes âgées en train de discuter sur les bancs, de gamins en train de jouer. Mais il faut vraiment remonter à une 30aine de kilomètres du chantier pour commencer à retrouver de la vie. Et en traversant cet endroit, j'ai vraiment pensé à la Roya et à ce qui risque de nous arriver s'il n'y a pas de mobilisation et de remise en question de tous ces projets complètement délirants et en contradiction avec la vie des habitants.
Zoé Chemalé, vous êtes une des têtes de une des figures, un des personnages de l'association Reine Roya Expansion Nature, une association qui s'est constituée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, je crois. Pourquoi est-ce que vous vous êtes constitué en association? C'était pour justement valoriser toutes ces richesses, toutes ces merveilles dont nous parle Thibaut Dufay, ou bien est-ce que vous sentiez des menaces sur cette vallée?
L'association a été créée en 90. Moi, je l'ai rejoint après le départ de l'ancien président. L'objectif de l'association, c'est de veiller à ce que le développement économique qu'il peut y avoir dans la vallée se fasse avec le plus grand respect de tout ce qu'on a comme ressources formidables, c'est-à-dire l'eau, la biodiversité, l'air, le paysage, qui sont des atouts essentiels pour le bien-vivre des populations et aussi pour le maintien de l'économie, puisque l'économie ici, elle est basée d'un côté sur un tourisme relativement respectueux, puisque ce sont des amoureux de la nature qui viennent. Et puis, il y a beaucoup de maisons de santé, des maisons de repos, qui sont des activités qui créent quand même beaucoup d'emplois sur le territoire. Et toutes ces activités dépendent justement du maintien du caractère exceptionnel de la vallée. Il y a beaucoup de choses qui sont là et qui justement peuvent être en danger très facilement si ce caractère exceptionnel se transforme en quelque chose d'absolument dramatique.
Vous dites si, mais de fait c'est un mais. Mais il y a un mais.
Disons qu'on a une épée Damoclès sur la tête avec ce projet du doublement du tunnel de Tende, puisque à long
Alors,
terme...
Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet?
Ben, ce projet, au départ, ça a été... Il y a eu l'accident du Mont-Blanc, il y a eu des nouvelles lois par rapport à la sécurisation des tunnels, et donc il a été proposé de sécuriser le tunnel de Tende, qui a effectivement quelques problèmes au niveau de la sécurité, mais les études ont été faites uniquement... dans l'optique de faire un double tunnel. Ça a été tout de suite là, le choix qui a été pris, en fonction d'ailleurs du fait que c'était le seul moyen de faire les travaux sans couper la liaison.
Oui, mais peut-être avant d'en parler, il faudrait que vous nous expliquiez ce tunnel, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le contexte? Qu'est-ce que c'est que ce tunnel? Il y a plusieurs tunnels. Quand on arrive par Nice, comme nous l'avons fait aujourd'hui, on traverse énormément de tunnels. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que on remarquait avec Anna Bednik et Jérémy Doty que les seuls endroits où il y a des trottoirs tout au long de cette route unique, c'est justement sous les tunnels. Et ça disparaît aussitôt après.
Ben là, ce tunnel est particulier parce qu'il fait 3,5 km de long. C'est un tunnel international. Il y a des nouvelles lois qui ont été faites sur les tunnels internationaux par rapport à la sécurité, etc. Et les petits tunnels qu'il y a dans la Roya, eux, justement, restent des tunnels qui sont des tunnels nationaux de petite distance, donc ils ne sont pas soumis aux mêmes lois.
Qu'est-ce qu'elles disent, ces lois ?
Ben, elles disent que... Il y a des normes de sécurité qui doivent être respectées. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces normes, mais dans ce qui est amené à être respecté pour le tunnel de Tende, en fait, dans la mesure où le flux de circulation dépasse pas un certain taux, on n'est pas amené à avoir un double tunnel. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une sécurité pour en cas d'incendie, etc. Donc, il y a effectivement des aménagements à faire. Mais le choix qui a été fait pour résoudre ces problèmes... Pour nous, à notre avis, n'est pas le bon, parce que ce choix va augmenter le gabarit du tunnel, va faire qu'à terme, il va y avoir deux voies avec deux bandes d'arrêt d'urgence qui risquent fort dans l'avenir de se transformer en quatre voies, et que par suite de ça, toute la vallée risque de se retrouver aménagée, agrandie. À chaque fois qu'il y aura un accident là, on dira qu'il faut agrandir ce lacet, on va dire ce tunnel là, il va falloir le doubler aussi, et on va se retrouver que notre vallée va devenir un axe. Au dépens de la vie des villages, au dépens de cette richesse assez exceptionnelle au niveau de tout ce qui peut être créé ici. Donc pour nous, c'est un enjeu très fort et ça fait depuis 2007 qu'on essaie d'alerter tous les différents ministres de l'écologie, toutes les institutions qui peuvent être impliquées là-dedans et malheureusement, il y a peu d'écoute.
Mais est-ce que vous avez une alternative à proposer ? Au sein de votre association ?
Bah, des alternatives, il y en a, parce que les études, elles ont été faites que dans le sens du doublement. Donc déjà, il y a un grand vide, c'est-à-dire faire des études, nous, on n'est pas spécialistes de tunnels, mais faire au moins des études pour trouver d'autres solutions. Il y avait eu le rapport Brossier, il y a longtemps, qui avait montré qu'on pouvait réaliser le tunnel, c'est-à-dire l'agrandir, sans couper la circulation. Après, quand ils ont choisi le double tunnel, de le doubler, ils ont dit c'est le seul moyen pour qu'on coupe pas la liaison franco-italienne qui est importante, parce qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau local sur cet axe. Et puis finalement, on voit que là, pour accélérer les travaux, parce qu'ils ne s'en sortent pas, ils ont un peu mis la pédale douce, ils n'y arrivent pas à faire les travaux dans les temps qu'ils avaient dit. Donc pour accélérer, ils vont finalement fermer le tunnel actuel. Donc finalement, l'argument principal qui avait été mis en avant pour ce choix, on voit qu'ils ne le respectent pas.
Avec tout de même à la clé, Zoé Chemallet, des conséquences effectivement très importantes. Vous avez évoqué le risque à l'avenir que la vallée entière soit aménagée progressivement. Mais même en attendant, on imagine assez difficilement ce qui peut se passer si le trafic s'intensifie, et en particulier le trafic de camions, parce que toute la route, pour l'instant, c'est une route vraiment très étroite et qui serpente énormément et qui traverse tous les villages, ou pratiquement tous les villages.
Oui, c'est sûr que là, le problème dans l'immédiat, c'est ça, d'autant plus qu'il n'y a pas de contournement de villages qui sont prévus. Donc c'est vrai que la vie dans les villages, ça va être un enfer. D'autant plus que l'augmentation du trafic de camions, il est à peu près inéluctable si le tunnel est doublé. D'abord parce que le gabarit va être beaucoup plus grand, donc on va passer à des... Tous les camions, ils font plutôt 4,10 m que 3,90 m. Actuellement, c'est limité à 3,90 m. Et puis en plus, ça va se retrouver à être le seul axe qui relie l'Europe du Nord et de l'Est avec la Riviera, qui va être gratuit. Et c'est important. Et bon, il faut voir qu'on est quand même dans cet axe nord-sud, qu'on peut récupérer tout le passage des camions qui viennent du Fréjus et du Mont-Blanc, et que c'est le lien avec Vintimille. Et Vintimille, c'est le deuxième passage en trafic transalpin de l'Europe. Hein, je crois que c'est 5 000 camions, j'avais les chiffres, mais enfin, en tout cas, c'est énorme. Donc c'est évident qu'on va se retrouver avec un flux de camions. Ce qui va gêner, ça va être effectivement les villages, les lacets. Donc c'est pour ça que la peur, c'est que progressivement, mais ça ne se fera pas sans accident, etc. Parce que souvent, on attend qu'il y ait un mort pour faire des travaux. Donc là, pour régler un problème de sécurité sur 3,5 km, on va mettre toute une vallée en danger. Et c'est vraiment ce que une grande partie de la population ici ne veut pas. Puis il y a la vie de tous les maires aussi qui ne veulent pas que la vallée devienne un couloir à camions. Alors actuellement, par rapport au projet, ils disent on va demander une régulation parce que le doublement, maintenant il est commencé, on peut pas. Hein, on va demander une régulation. Nous, les problèmes de régulation, on n'y croit pas trop parce qu'il y a eu d'autres régions où on a promis des régulations, ça n'a pas été fait. Et puis, il faut pas oublier que dans le projet même, par exemple, la réfection des lacets à l'entrée du tunnel, ils ont été faits dans l'esprit faciliter l'accès des grands camions. Alors, comment d'un côté faire un projet pour faciliter l'accès des grands camions et d'un autre côté leur interdire l'accès? Il y a quelque chose qui nous gêne. Après, c'est sûr que ça peut être un moyen d'endormir la population. C'est-à-dire de dire, vous inquiétez pas, on va réguler les camions. Et nous, au niveau de l'association, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt des travaux, une concertation, parce qu'il n'y en a jamais eu. Et on demande le report des financements dans l'urgence sur le rail, parce qu'on a un vrai problème avec le rail.
Pour conclure avec vous, Zoé Chemalet, le coût des travaux envisagés pour ce tunnel?
Alors actuellement, les dernières estimations qui ont été faites, elles ont été faites en 2010, ils arrivent à 209 millions d'euros, dont 45% pour la France. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette somme-là, le transport des déchets d'extraction n'ont pas été pris en compte. Et dans la DUP, ils n'étaient pas gérés de la façon dont ils vont l'être. C'est-à-dire que là, ils vont être transportés sur Asti par camion. Alors déjà, il y a le coût de ça qui n'a pas été pris. Il y a le fait des complications qu'ils ont rencontrées par rapport à l'eau. Donc, il y a des coûts. Ces coûts, on vient de saisir la Cour des comptes, justement, parce que ces coûts nous semblent sous-estimés par rapport à tout ce qui est découvert. Et c'est vrai que c'est une somme énorme, que la voie de chemin de fer, avec la moitié de cette somme, on aurait une ligne tip-top qui permettrait une liaison dans l'esprit de la politique qui est mise en avant par les gouvernements, autant par l'Europe, par tous les schémas directeurs de transport, qui est le report de la route sur le rail. Et ça nous paraît aberrant qu'on finance la route au détriment du rail. On est en fait une espèce de vallée emblématique de l'inverse de ce qui est prôné dans tous les documents de transport.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Jérémy Doty, Anna Bednik, vous devez vous sentir un peu dupé là, dans cette affaire. Vous êtes venu ici vous installer pour de nombreuses très très bonnes raisons. La qualité de l'air, la beauté des paysages, la pureté de l'eau, et puis surtout le fait que bien que vous n'ayez ni l'un ni l'autre le permis de conduire, c'est possible de se déplacer tout le long de cette vallée et de rejoindre les grandes villes et de vivre en fait au quotidien sans permis de conduire. C'est parce que vous êtes un peu des Robinson ou c'est vraiment possible, Jérémy Doty?
Alors, vivre dans la vallée de la Roya sans le permis de conduire, justement, c'est une situation idéale parce que il y a le train qui vient de Nice, il y a le train qui vient de Vintimille. Une fois arrivé dans une gare de la vallée, on peut faire appel à un système qui s'appelle le transport à la demande. Le TAD, donc, est un système presque de taxi collectif, une espèce de covoiturage organisé par la communauté d'agglomération de la Riviera française à laquelle les villages de la vallée appartiennent.
Qui est coûteux?
Alors non, c'est vrai que pour nous, c'est un des aspects fondamentaux, c'est que quand les choix politiques font la promotion des transports doux ou du rail ou des transports collectifs, on peut vraiment avoir des tarifs pas chers parce que ça nous revient pour faire donc porte à porte, presque, parce que on a encore une demi-heure de marche ensuite, de Nice jusqu'à notre petit village de Libre, ça nous revient à 5 euros par tête. Donc c'est hors compétition par rapport aux tarifs de la voiture ou peu importe, en fait, de la route. Et c'est vrai qu'on se sent dupé parce qu'on a rejoint, on est les petits nouveaux, nous, dans la vallée. On est ce qu'on peut appeler des néo-ruraux. Même si on vient ici depuis longtemps, on a quitté Paris où on vivait il y a 2 ans en pensant qu'on allait vivre dans ce coin de paradis, dans une situation idyllique, ce qui a été dit auparavant. Et en fait, on se rend compte que pas du tout,
qu'on va peut-être vivre à côté d'une autoroute, que l'air est déjà pollué ici, en fait, que le rouleau compresseur, il est en train de détruire cette vallée aussi.
Et le train aussi, Anna Bednik?
Le train aussi, effectivement, sachant que cette ligne de train, qui est donc en réalité, ce sont deux lignes de train, c'est-à-dire une qui part de Vintimille et qui va jusqu'à Cuneo, et l'autre qui part de Nice jusqu'à Bray, et donc Tende et au-delà. Cette ligne de train est vraiment une ligne de vie, ce qu'on dit ici, qui connecte les villages, qui connecte les différentes vallées, qui connecte les vallées au littoral, qui connecte la France et l'Italie, qui est une ligne exceptionnelle à plus d'un titre, qui est vraiment, c'est une ligne historique, c'est la première percée transfrontalière alpine. C'est une ligne très belle avec des ouvrages exceptionnels, notamment ce qu'on connaît comme les tunnels hélicoïdaux, pardon. C'est-à-dire qu'on part d'un point et on va arriver à ce même point, mais 30 mètres plus haut.
En montant en spirale?
En montant en spirale, voilà. Donc c'est enfin une espèce d'hélice plutôt qu'une spirale. Voilà. Donc elle est connue pour ses ouvrages. Et c'est aussi une ligne qui a été électrifiée très tôt. Donc la ligne a été inaugurée en 1928, elle a été électrifiée dès 1934. Ensuite, elle a été détruite pendant la guerre et donc quand elle a été reconstruite, on ne l'a pas réélectrifiée justement. Et en plus, c'est une ligne qui permet dès aujourd'hui en fait de transférer une bonne partie de transport des marchandises qui transitent aujourd'hui par la vallée. Je ne parle pas des marchandises qui transiteront peut-être si le doublement de tunnel est achevé, mais en tout cas une partie des marchandises qui transitent aujourd'hui par la vallée pourrait être transférée sur le rail, donc par le fret, sachant que la ligne a le gabarit qui le permet et des infrastructures qui le permettent. C'est-à-dire que la majeure partie de ce qui transite aujourd'hui par la vallée, c'est de la ferraille et du ciment de la Ligurie et du Piémont. Et donc, les usines en Italie sont encore équipées de rails, donc le train peut rentrer dans ces usines. Et à Vintimille, il y a un parc ferroviaire donc qui permettrait aussi de transborder les marchandises sur des trains, sachant que ce parc est en train de, malheureusement, être démantelé pour donc laisser place à de l'immobilier industriel. Et donc, cette ligne est effectivement menacée. Elle se dégrade de jour en jour parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand la ligne a été détruite par les Italiens, donc au moment de sa reconstruction, la France et l'Italie ont signé une convention, donc c'est la convention de 1970, qui en fait oblige les Italiens de payer la majeure partie des factures des travaux de rénovation. Donc les Italiens, ça fait très longtemps qu'ils contestent cette convention et qu'ils demandent sa révision. On en parle beaucoup, donc récemment encore, François Hollande avait promis que ça serait fait. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Et donc, ce qui se passe concrètement en ce qui concerne les travaux sur le terrain, c'est que chaque État se renvoie la balle et les travaux ne sont pas faits.
Et donc, la ligne se dégrade, mais en plus, on a supprimé un certain nombre de trains sur cette ligne.
Oui, c'est toujours partie de ce même conflit. C'est pour ça qu'au fait, sans la renégociation de cette convention, la situation ne serait pas débloquée. C'est-à-dire que les Italiens, en 2013, ils ont donc supprimé un certain nombre de navettes. Je crois qu'on est passé de 16 à 4 allers-retours entre Vintimille et Limone. Et donc, les Français, en riposte, ils ont posé une limitation de vitesse, donc passant de 80 km/h à 40 km/h. Sur une partie du parcours, et donc ce qui a encore réduit le nombre de trains. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'entre Nice et Bray, c'est ce qui nous concerne directement parce qu'on s'arrête à Bray, il y a un certain nombre de trains, enfin disons le trafic est plutôt correct. En revanche, pour ce qui est Bray-Tende, il n'y a que 4 allers-retours par jour. Et si on regarde plus loin, pour aller à Cuneo, ce qui est aussi l'intérêt de cette ligne, c'est-à-dire qu'elle est transfrontalière, internationale, pour aller à Cuneo, il n'y en a que 2 allers-retours. Donc c'est pratiquement impossible de faire l'aller-retour dans une seule journée.
Donc guéguerre entre la France et l'Italie, mauvaise volonté de part et d'autre, vif intérêt porté au doublement d'un tunnel routier. Le coût des travaux nécessaires pour la réfection de la ligne de train, ça a été calculé également ? Anna Bednik?
Donc les coûts pour sauver la ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est réellement en danger de mort, pour la sauver il faudrait 80 millions d'euros et pour l'électrifier et la moderniser de façon à permettre notamment le transport du fret, il faudrait 120 millions d'euros. C'est-à-dire
en plus de ces 80 millions.
Non, non, c'est, les 80 millions sont inclus dans ce montant. Et donc, si on compare cette somme à la somme qui sera dépensée pour le tunnel, c'est-à-dire que, comme Zoé Chimalier l'a dit tout à l'heure, c'était en 2010, c'était 209 millions d'euros. Et sachant que ça sera beaucoup plus, et sur ces 209 millions d'euros, la France prend en charge 87 millions d'euros. Donc là, on voit qu'on est presque la moitié de cette somme totale, en tout cas, suffirait pour déjà sauver la ligne et la totalité de la somme pourrait être réinvestie sur sa modernisation.
Paola Jacob, vous vivez sur la route, à quelques kilomètres de Souza, la ville de Souza. Et sur votre maison, il y a une très grande banderole qui dit « Ici, on est condamné à mort par le train Alta Velocità, le TAV, qui doit être construit. » Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça ?
Parce que notre maison serait au milieu du chantier, du grand chantier qu'ils veulent monter pour construire le tunnel de base. Et d'après les cartes, il ressort que cette zone sera la zone la plus polluée à cause du chantier. C'est pour cela que nous avons mis cette banderole.
La lutte contre ce changement de la ligne ferroviaire qui existe déjà, c'est une lutte qui dure depuis plus de 20 ans maintenant.
Oui, c'est vrai, c'est une lutte qui dure depuis de longues années, plusieurs générations. Les enfants grandissent, mon fils a grandi, et il continue à lutter lui aussi, parce que vraiment, nous n'en voulons pas. Personne ne veut entendre les vraies raisons, ce serait dévastateur.
Est-ce que vous voyez des changements depuis 20 ans, soit dans la politique du gouvernement italien, ou dans les décisions qui sont prises?
Non, absolument aucun changement. La population n'est jamais informée et il y a une campagne de condamnation tous azimuts avec des tas de procès, mais non. Aucune amélioration.
Et est-ce que la lutte reste importante au sein de la population ou bien est-ce que c'est une petite fraction qui continue à se battre ?
Non, la lutte continue et la population est toujours nombreuse. Les manifestations sont toujours très fréquentées, absolument.
Mario, vous êtes coiffeur à Bussolène, une petite ville dans le Val de Souza. Vous étiez très impliqué dans la lutte des Notav il y a quelques années. On vous avait rencontré il y a 4 ans maintenant. Est-ce que vous êtes toujours impliqué dans cette lutte et est-ce qu'elle continue dans le Val de Souza?
Si continua sempre.
Oui, la lutte continue et elle continuera jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils partent et qu'ils laissent la vallée tranquille.
Comment est-ce qu'elle continue ?
Facendo presidio al cantiere,
en montant des presidios sur le chantier, en manifestant et ainsi de suite.
Il y avait beaucoup de violence de la part de la police et des militaires lorsque nous étions venus. Est-ce que ça continue ?
È sempre così, però è cambiato qualcosa. Adesso picchiano di meno.
C'est toujours comme ça, mais quelque chose a changé. Maintenant, ils frappent moins. Il y a moins de coups de matraque. Mais ils arrêtent des tas de gens pour des motifs insensés.
A settembre del 2015, fermato una macchina con un attivista.
En septembre 2015, ils ont arrêté une voiture avec un militant.
Si sono fermati e hanno detto ai poliziotti. Un po' col nervoso.
Alors, les occupants des autres voitures qui étaient avec lui se sont arrêtés et se sont un peu énervés contre les policiers en leur disant « Allez vous faire foutre, vous êtes des fascistes ». 6 mois plus tard, ils en ont arrêté 4 et en ont mis 4 autres en liberté surveillée. Et ils ont agi de façon vraiment bizarre, comme les forces spéciales masquées en pleine nuit ou le matin très tôt, quand il fait encore nuit, avec des fouilles au corps même.
Et ça, ce ne sont pas des méthodes traditionnelles de la police italienne?
Non,
pas du tout. Parce que si j'insulte un policier, au pire, on porte plainte contre moi, mais on ne m'arrête pas. C'est absurde. Ils sont en train de changer de méthode, à mon avis. Ils frappent moins, mais ils font ce type de répression. Ils essayent d'effrayer toujours plus les gens. Mais les gens n'ont pas peur. Ils ne nous font pas peur.
Et la société italienne, Comment est-ce qu'elle réagit à tout ça?
La population est sempre con noi.
La population est toujours avec nous, avec le peuple notave, et de plus en plus. Un jour, j'ai reçu la visite de la brigade financière, il y a 3 ans. Ils ont contrôlé mes lames de rasoir. Combien de barbes je rasais avec une lame, etc. Des choses absurdes.
La sera... Dopo qualche giorno davanti al mio negozio c'è stata una conferenza stampa, c'è stata un'interpellanza parlamentare.
Quelques jours plus tard, le soir, il y a eu une conférence de presse devant mon salon, puis une question au Parlement à Rome sur mon cas, parce qu'à notre avis, la brigade financière n'est pas précisément venue pour contrôler les lames de rasoir, mais plutôt à cause de ce que je suis.
Però anche lì si sono sbagliati perché la gente
comment dire, giro c'est di comme punir une personne pour en éduquer 100. Mais là aussi, ils se sont trompés.
Non mi sento
parce qu'en quelques heures, devant mon salon, il y avait plus de 200 personnes. Je ne me sens pas seul et ça, ça les ennuie. Ça les ennuie beaucoup. Moi, je suis tranquille parce que je suis bien entouré.
Valerio, vous venez souvent ici dans cette petite cabane qu'on appelle un presidio et qui accueille tous ceux qui passent avec un café, un petit morceau de gâteau et surtout beaucoup de conversations.
Alors, questo è il secondo presidio di Borgone perché il primo l'hanno bruciato in un incendio doloso, possiamo dire.
Alors, nous sommes dans le deuxième presidio de Borgone parce que le premier a été brûlé dans un incendie criminel, voilà. On n'a jamais trouvé qui avait déclenché le feu.
Discutere, dialogare ed accogliere.
C'est un presidio où l'on se retrouve presque tous les jours pour se voir, discuter et aussi pour accueillir les citoyens.
2005.
Ce qu'on peut dire, c'est que le premier presidio est né en 2005 et il est né parce que les premiers sondages devaient commencer. Et ça a été très important parce que ça a permis de réunir tout le monde. Moi, par exemple, ça fait 25 ans que je suis dans le mouvement Notave. Je le dis toujours, mon fils a été élevé au pain et au Notave. Et à 25 ans, il fréquente l'école polytechnique de Turin. Ça a été important parce que ça nous a permis de nous fréquenter. Moi, par exemple, parmi les gens qui sont ici, disons que je connaissais Riccardo parce qu'il était chauffeur, donc ça pouvait m'arriver de le voir. Mais tous les autres, Marco, Léa, Sergio, Beppe, je ne les aurais pas connus. Et ça a créé une forte solidarité entre nous. Le mouvement Notave nous a unis.
Et vous avez continué à vous réunir pratiquement tous les jours depuis maintenant plus de 10 ans. Et de quoi est-ce que vous parlez encore?
Et parler, diciamo, degli aggiornamenti perché il TAV è una continua evoluzione.
Eh bien, des dernières nouvelles, par exemple. Parce que le TAV, le TGV, est en constante évolution. Depuis 25 ans qu'on fait des réunions et des rencontres, c'est surtout pour connaître les changements du projet. On en est à 4 projets modifiés en 10 ans. Donc on veut être informés. Nous avons des universitaires, des techniciens, des ingénieurs qui ont travaillé sur la liaison à grande vitesse Turin-Milan, qui viennent nous informer de l'évolution de la situation.
De quelle évolution est-ce que vous parlez?
Le premier projet de 1980 était une ligne à ciel ouvert qui détruisait la vallée, avec expulsion des habitants. Notre vallée est une vallée glaciaire en U. À certains endroits, elle ne dépasse pas 1 km ou 1,5 km de large.
La ferrovia, il fiume, le strade comunali, quindi non c'era la possibilità di inserire.
Et il y passe 2 routes nationales, la voie ferrée, le fleuve, les chemins communaux et l'autoroute Turin-Bardonecchia.
Le proteste hanno fatto cambiare il progetto e l'hanno realizzato parzialmente.
Donc ce projet à ciel ouvert, il n'était pas possible à réaliser.
Noi abbiamo contestato perché era costoso, perché.
Les protestations ont fait modifier le tracé pour qu'il soit réalisé en partie en tunnel sur la rive gauche. Puis on a contesté le projet parce qu'il était cher et inutile. On continue à dire que le TAV dans le Val de Suse n'est pas utile. Pourquoi? Parce que notre ligne internationale est utilisée à 28%. 4 paires de TGV y passent. Et donc le projet a été modifié à nouveau et il a été conçu dans sa quasi-totalité en tunnel, de l'autre côté, sur la rive droite. Là aussi nous avons contesté et maintenant ils voudraient, s'ils y arrivent, construire seulement un tunnel de 57 km sous le Fréjus. Ce qui est bizarre, et j'en finis avec ça, c'est que nous, les Italiens, nous avons un tiers du territoire et nous allons supporter les deux tiers de l'engagement financier. Ça, pour nous, c'est bizarre. Ça veut peut-être dire, alors, les Français ne veulent-ils pas de ce projet? Il y a un autre fait. Si on ne construit plus la ligne à grande vitesse dans la vallée, tous les trains, tous les convois passeront par la ligne internationale. Donc, pour l'instant, seul le tunnel est projeté.
Mais à force de changer ce projet, on a l'impression qu'il devient de plus en plus absurde.
Le projet est absurde depuis le début. Il est parti en tant que ligne à grande vitesse parce que certains disaient, affirmaient, que les passagers entre Turin et Lyon étaient très nombreux, ce qui justifierait un tunnel de 57 km entièrement dédié au trafic passager. Après quoi, nos techniciens, les techniciens notaves, les techniciens de la communauté de montagne, leur ont démontré que cette augmentation des passagers était de la science-fiction, n'était pas réelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, alors au lieu de faire une ligne à grande vitesse, faisons une ligne à haute capacité, destinée aux marchandises. Nos techniciens ont apporté des graphiques, des données, tout le reste, et ils ont démontré que le fret est en baisse constante, comme Valerio l'a déjà dit, qu'il soit routier ou ferroviaire. Alors, les partisans de ces travaux ont dit, faisons une ligne mixte sur laquelle passeront les marchandises et la grande vitesse. Alors, je voudrais juste savoir, en Europe, combien de kilomètres de voies ferrées sont utilisés à la fois pour la haute vitesse et pour les marchandises? D'après ce que je sais, soit il s'agit de lignes dédiées à la grande vitesse, soit de lignes dédiées aux marchandises. Les concepteurs ont toujours fait la sourde oreille. Ce projet a été conçu pour créer une montagne d'argent qui profitera certainement à quelqu'un, mais sûrement pas à la population du Val de Suse, ni à celle de la Maurienne. C'est ce que je pense. Et nous sommes nombreux à être d'accord. Nous nous voyons ici tous les jours. On ne parle pas uniquement de TAV, on parle de la politique actuelle, on parle des problèmes du pays, il y en a des sujets.
Est-ce que par exemple vous parlez de la difficulté qu'il y a pour les réfugiés aujourd'hui à arriver en Europe? Dans le même temps, on construit des murs tout autour de l'Europe et on creuse des trous dans les montagnes pour faire passer des trains à grande vitesse.
Oui, nous parlons de ça aussi. Nous discutons et nous sommes en colère. Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire réellement, concrètement, pour changer la situation. Parce que, en tout cas, c'est ce que nous pensons, soit on change la société, soit je ne sais pas comment tout ça va finir. Notre société qui, comme vous le dites, fait des tunnels pour faire voyager les marchandises rapidement, mais qui ensuite met du fil barbelé et construit des murs pour ne pas faire circuler les gens. Nous sommes arrivés à un point où les capitaux, les marchandises circulent librement, on peut dire quasiment dans le monde entier, mais pour les personnes, qui devraient être l'essence de la vie, il est de plus en plus difficile de circuler en Europe, en dehors de l'Europe et partout.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un certain nombre de liens. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Terre à Terre, qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, traduction Béatrice Serrano, avec les voix de Anne de Biran, Xavier Martinet, Antoine Lachant et Philippe Palares. Mixage Jean-Louis Deloncle, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.